Bienvenue sur Aligre FM 93.1, je suis Kad, l'Omni 92, vous écoutez Championne, votre émission sur le sport féminin. Nous découvrirons ou redécouvrirons une légende de sa discipline. En l'occurrence ce soir, on va parler de Backline, Cherry Rocker, de Freeze, de Hand. Non, on ne parlera pas de Astérix Obélix et l'Empire du Milieu de Guillaume Canet, avec Guillaume Canet, noté 1,75 sur 5 sur Halluciné. Ou Jonathan Cohen fait du Jonathan Cohen. On l'aime bien, mais c'est comme De Finesse, Statham ou Vin Diesel, ce sont des personnages différents. C'est juste le nom qui change, mais c'est la même personne, rien ne... Voilà, ça commence à se voir. Bien... C'était pas un casting, mais un camoulox ce film, sachez-le. Il y avait Franck Astambide, Angèle, Jérôme Commander, Marion Cotillard, Big Flo et Oli, McFly et Carlito, Pierre Richard, n'importe quoi. Eh bien, plutôt que de parler de ce film épouvantable, on va parler de sport de glisse sur glace, poétique, subjugant, le curling. Nous brosserons ensuite le portrait de la légende écossaise Eve Murrayed, dit la Ice Queen. Médaille d'or aux JO d'hiver de Chine de 2022 à Beijing, alias Pékin. Et enfin, troisième partie, nous parlerons librement de ce qu'est le sport dans la vie des femmes aujourd'hui. Pour cet épisode, je serai accompagné de Camilla et Mélanie, dites les jumelles maléfiques. Fixe sans peur et sans reproche. N'oubliez pas de vous abonner, sinon elles vous jetteront un sort. Ça va les filles?
Merci pour cette présentation, effectivement, jumelles maléfiques depuis de nombreuses années, mais c'est toi qui nous as qualifiés comme ça.
Exactement.
Je rappelle juste.
Soy el Tyrannos. Où que vous soyez, bonne écoute et merci de votre attention. C'est l'épisode 13 de la saison 2. Chers auditeurs, auditrices, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons donc parler de glisse sur glace, nous allons discuter de curling. Un sport particulier, un sport envoûtant, presque poétique. Qu'on ne croise que lors des sports d'hiver sur France 3 un dimanche après-midi, avec un plaid en pilou-pilou. Expérience connue, bien sûr, de tous les Français. Cette idée particulière de tenter une pétanque sur glace en faisant glisser des grosses pierres autour d'une cible de tir à l'arc, c'est comme le tour de vente de Gérard Larcher, mais bref. Et pour être sûr que ce lancer soit bon, des gens se mettent à frotter très vite la glace avec un truc qu'on dirait un balai. Et chaque homme se rappelle de ce moment où il devait passer le balai à la maison en l'absence de sa femme. Et bien sûr, il s'active à peine 5 minutes avant son retour, la même énergie sur la glace. Record Guinness de la plus longue séance non-stop de curling, vous pouvez jouer chez vous. Je vous pose la question, les filles. Combien d'après vous, une partie de curling en record Guinness a duré?
Alors moi, j'ai
180 minutes.
Oh, c'est beau.
180 minutes.
J'ai lu que la moyenne, c'était 2 heures une partie.
Bien joué, effectivement.
Donc, ton record, je pense qu'il serait peut-être pas si incroyable que ça.
Ah.
Eh bien, préparez-vous.
On est sur record, du 6 heures.
105 heures au Canada.
Ça veut dire... Non.
Non.
Ça se compte en jours.
Si, si, 105 heures au Canada, 4 jours. C'était pour une œuvre caritative afin d'amasser de l'argent au profit de la santé mentale pour les jeunes gens. C'est en 2021, c'était le Capital Winter Club. D'ailleurs, les filles, un record personnel à déclarer sur la glace, peut-être?
Pas du tout.
Pas du tout, par ici à ma droite.
Je suis allée à la patinoire une fois à 12 ans, j'ai eu des cloques, je ne suis jamais retournée. Donc, pas vraiment.
Très bien. Alors, juste avant de développer ce sport spécial, jingle. Auto-promo. Alors, vous connaissez le rendez-vous en direct de l'émission, c'est maintenant tout de suite le vendredi de 19h à 20h, mais aussi le mercredi en rediff de 17h à 18h. Nous sommes bien en direct comme d'habitude, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas tout retrouver en podcast. Si vous êtes coincé quelque part en train de réfléchir à lancer ou non un œuf sur un représentant de l'extrême droite, ou bien comment vous désinscrire de votre abonnement Netflix, passé de 8€ à son lancement en 2015 et 10 ans plus tard 15€ presque fois 2.
C'est vrai.
Ceci est vrai, c'est des vraies infos.
C'est vrai.
Ce sont toujours des vraies infos ici, mesdames et messieurs, c'est important de le dire. Ce n'est pas grave, vous pouvez tout écouter en replay sur la page de la radio, taper sur Google Aligre FM Podcast, c'est gratuit, et chercher l'émission Championne. D'ailleurs, vous avez plein d'émissions sympas, comme L'étincelle dans la ville, Cappuccino, Les arènes de l'écologie, Radio Scénique au fil des pages, et si vous aimez la musique, Chacun son tempo. D'ailleurs, on m'informe dans l'oreillette que tous les épisodes de la saison 1 et 2 sont prêts, sont tous en ligne. Voilà, c'est pacifique, on est dans l'état. Applaudissements. Bravo. Alors, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, @championne_l'émission. On va prendre un petit instant déjà. Comment ça va cette semaine, les filles?
Grand froid.
Grand froid?
Pas du tout prête.
Pas du tout prête. Mélanie?
Je me remets d'un torticolis. Mais tout va bien, on en sort. Mon ostéopathe est génial.
Il est bien, l'ostéopathe.
Elle est merveilleuse. Sublime.
Alors... du coup, cette semaine...
Mais et toi?
Moi, cette semaine, le froid. Le froid m'a paralysé.
On
les doigts de pied, j'ai vécu en plaid. Je déteste la nuit à 16h30. J'ai vraiment du mal. Je pense que je ne suis pas fait pour l'hiver.
Moi, j'aime bien.
Alors que je suis né en février, ça n'a rien à voir. Mais c'est ainsi. Alors, ce soir, évidemment, avec nous, vous l'avez entendu, nous avons Camélia à ma droite et en face de moi, Mélanie. Un coucou, bien sûr, à la régie. Diego Armando Maradona, bien sûr, et toute l'équipe qui est derrière, des gros bisous, ils sont là, ils sont présents. Alors, les questions de la semaine. Merci à Sandrine d'avoir trié ces 9999 females, dont 9998 spam.
Quelle patience, quelle fidélité.
Pour nous envoyer un message, c'est championne@aligre.org. Alors, message de petite poule 63. Bonjour, j'adore écouter votre émission lorsque je me coupe les ongles, les doigts de pied. Vous avez vu les proportions de l'histoire de l'œuf sur la tête de Jordan Bardella. Alors merci infiniment du message Petite Poule 63. Chacun ses occupations, nous ne jugeons pas. Effectivement, se retourner contre un vieux retraité pour un œuf alors que M. Bardella semblait valider la même blague sur la tête du président Macron au sein de l'agriculture, on voulait juger de la pertinence. Mais, pour vous répondre cette semaine, on va essayer quelque chose. On va demander à Cheb Kadi, un sombre producteur algérino-espagnol, mais en fait français, de rail moderne exil dans les Hauts-de-Seine, de répondre par la voix de la grande chanteuse Diamant du 92. Le titre s'appelle Jordan, sur la compilation virtuelle R&B French. Il y a des refs. Tendez l'oreille, profitez de l'intro. Certains d'entre nous vont peut-être se lever, danser et chanter chez vous, n'hésitez pas. C'est le moment d'envoyer l'extrait numéro 2 pour la régie. C'est parti.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Que tu deviens comme Serbie Habibi. Dans le pays de Marianne, il y a l'amour, il y a la guerre.
Voilà, une petite réponse, bien sûr, sur un single, bien de chez nous. Alors, c'est le moment où vous faites semblant d'applaudir, bien sûr, et on va reprendre sur le sport, c'est important. Alors, le curling, comment ça marche? Qui sait que je suis le curling? Bientôt un stage intensif de Molky Mélanie?
Alors j'adore le Molky, j'ai même participé à une compétition.
C'est pas vrai?
Si, c'est là-bas que j'ai appris les règles.
J'en apprends tous les mois avec les amis. Tous les mois on a une information nouvelle.
C'est que des
anecdotes. Au sujet de sa vie sportive.
Ouais, ouais. C'est très sympa.
Alors pour commencer, le curling est un sport de précision pratiqué sur glace avec des pierres en granit taillées et polies selon un gabarit international. Le but est de placer les pierres le plus près possible d'une cible circulaire dessinée sur la glace façon tir à l'arc. Alors déjà, c'est assez technique puisqu'il faut réussir à pousser les pierres pour gagner des points. Et surtout, les équipes sont bien réparties. Alors, on appelle cette cible la maison. Il faut amener ces pierres qui servent de boules de pétanque, hein, plus près du centre. Et j'ai généralement admis que ce jeu a été inventé au XVIe siècle en Écosse, en dépit de l'existence de deux tableaux de Peter Brudel l'Ancien, qui représentent les paysans flamands en train de jouer au curling vers la même époque. Ce jeu, le curling, en extérieur, était très populaire en Écosse entre le XVIe et XIXe siècle, lorsque le climat hivernal était suffisamment froid pour assurer de bonnes conditions sur la glace. Le siège de la Fédération mondiale du curling se trouve en Écosse, dans la ville de Perth. Dès la première question, est-ce que vous saviez que le curling est originaire de l'Écosse?
Alors l'Écosse précisément, je ne le savais pas, mais intuitivement j'aurais envisagé un pays plutôt froid. Ça aurait pu être la Russie comme le Canada, mais, ou chez les Vikings, tu vois.
Suède, la Norvège.
Ouais, exactement. Donc Scandinavie, mais spécifiquement l'Écosse, j'aurais pas deviné.
Et pourtant, c'est la raison pour laquelle on appelle les pions de curling pierres, parce qu'ils attendaient en fait impatiemment que les lacs gèlent pour envoyer les pierres, et ont commencé à ce jeu-là très très tôt. Donc c'est très populaire là-bas en fait.
Ils ont commencé ce jeu par hasard, parce qu'ils ont découvert qu'ils pouvaient user en fait de la nature et du grand froid qui a souvent dans ce genre de pays. C'était par hasard?
Alors franchement, j'ignore d'où vient l'idée, mais en tout cas, ouais, ça fonctionne plutôt bien, c'est un truc extrêmement populaire là-bas.
C'est une pétanque de pays froid.
C'est exactement ça. Bon après, c'est la Grande-Bretagne. Oui, ils ont inventé le tennis, ils ont inventé le rugby, ils ont inventé plein de choses. Ce sont les premiers pour inventer des sports un peu étranges. Alors, pour le curling, on continue bien sûr. Le jeu existe en Écosse depuis donc le XVIe siècle. Deux pierres de curling inscrites datent de 1511 et 1551, sont retrouvées dans une mare de Dunblair. La première de ces pierres est conservée au musée de curling aux côtés du premier ballon de football encore conservé. Incroyable. La première référence écrite à un concours de lancer de pierres sur la surface glacée date de février 1541 et vient du registre de l'abbaye de Paisley dans le Renfrewshire. Je le dis très mal. Vraiment désolé. Donc, il faut savoir qu'effectivement, les clubs de curling, et on ne rigole pas en Écosse, se battent pour la paternité du premier club fondé en 1716 pour les uns, en 1795 pour Edimbourg. Donc, c'est une très très longue tradition écossaise. Le curling, lui, est au programme des Jeux Olympiques d'hiver de 1924 à Chamonix, pour une épreuve masculine remportée par la Grande-Bretagne. Encore une fois, les Écossais ne sont pas loin. Devant la Suède, effectivement, un pays du froid, et la France, cocorico, c'était à domicile. Les archives perdent cependant la trace de cette compétition, qui n'est reconnue comme officielle par le Comité international olympique que seulement en 2006. Il faut savoir qu'il va y avoir deux coups d'essai. En 88 et 92, ça va être une discipline qui va être démonstrative. Et après, à partir de 96, ça devient une discipline internationale des Jeux olympiques d'hiver. Donc à partir de là, ça marche bien. En 1989, les championnats du monde s'ouvrent aux femmes. Effectivement, encore une fois, vous n'aviez pas le droit de faire du curling.
Ouais.
Un avis sur le sujet ?
Est-ce que c'était en rapport avec la force physique ou pas ? Parce que je sais que le curling, en fait, nécessite quand même une certaine musculature, vu que la pierre en question, apparemment, est très lourde.
Oui.
Mais il n'en demeure pas moins qu'on peut le faire à partir du moment où on s'entraîne.
En termes de poids, j'ai lu que la pierre, de manière générale, elle doit faire 19,96 kg.
Ouais, c'est très précis.
C'est très précis, c'est ouais. très calibré
c'est ultra
comme
précis.
Sport.
La pierre est ultra précise.
C'est lourd quand même.
Ouais, clairement. Après, les raisons pour lesquelles c'était interdit aux femmes, j'ai envie de dire, le marathon,
oui, parce qu'elles
connaît.
Oui, elles étaient destinées à des pratiques sportives un peu plus gracieuses, on va dire. À ce
c'est exactement ça, c'est le bon terme. Oui. Alors que là, en fait, c'est des types qui lancent des grosses pierres sur la glace dans un rond.
Lancer le javelot un peu, dans le même style.
Lancer de poids. Les préjugés, comme d'habitude. Elle utilise lors de ses épreuves un chronomètre pour limiter le temps de préparation entre les lancers, une pratique qui a commencé au niveau amateur en 83 et adoptée par le Sport Network en 1986. En 91, le règlement est modifié pour ajouter le concept de zone de garde protégée. Les équipes ne peuvent plus retirer les quatre premières pierres de la manche. C'est le règlement qui est appliqué au curling des Jeux Olympiques de 1992. Le curling devient olympique à partir des Jeux Olympiques d'hiver de 98. À cette édition se rendent 8 équipes masculines, 8 équipes féminines. Donc cocorico, c'est bien un sport mixte. Ouais. Il y a bien des équipes masculines et féminines. Et depuis peu, 2018, aux Jeux Olympiques, une épreuve de double mixte est ajoutée. Deux garçons, deux filles dans la même équipe.
C'est ce que j'avais demandé.
Et ça,
c'est ce que j'avais demandé. Ça s'applaudit.
Ça s'applaudit. Ça s'applaudit.
Ça, c'est génial parce qu'il n'y a pas beaucoup de sports qui font ça.
Non. Y a
qui autorisent en tout cas vraiment la mixité.
Le ping-pong le fait, là, d'ailleurs, des championnats du monde. Ouais. Mais pas tant que ça. C'est venu assez tardivement. Mais les sports de raquettes le font. Assez régulièrement, en fait, ce qui n'est pas le cas des autres. Alors, première question, sur 10 tournois de Jeux Olympiques, je mets les démonstratifs dedans, d'après vous, l'équipe canadienne, qui est la meilleure équipe de tous les temps, a gagné combien de titres ?
Bah, 9.
9, ma droite ?
J'ai vu qu'il y avait la Suisse qui n'était
pas si mauvaise, ouais.
Suisse et Suède ne sont pas si mauvais, ouais.
Alors, je dirais 7.
Applaudissements, c'est une bonne réponse.
Oh. Bravo.
Oh là là.
Exceptionnel, évidemment. 7 sur 10, effectivement. Le double mix de 2018, 3 titres pour les garçons, 3 titres pour les filles. Mais c'est quand même les filles qui ont gagné les premières l'or en 88 et 98. Et ça, c'est beau. Alors, comment on joue ? Le but du jeu est de lancer des pierres le plus près possible du cercle le plus petit de la maison, appelé le bouton, et de marquer le plus de points de l'équipe adverse. Évidemment, les pierres peuvent éjecter les pierres adverses. C'est pour ça que ça ressemble un peu à la pétanque. C'est extrêmement stratégique, extrêmement mental comme sport, pour le coup. C'est vraiment très, 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 très physique, pour le coup. Donc, une équipe marque un point par pierre la plus proche du bouton, que la meilleure pierre de l'équipe adverse. Le jeu se joue par équipe féminine masculine, 4 personnes avec des règles identiques, ou double mixte comme on a dit, favorisant des parties plus courtes. Effectivement, comme tu l'as dit, le chronomètre est très important. Les parties en moyenne durent 2 heures, à peu près.
C'est beaucoup.
C'est long.
C'est assez long.
C'est long.
Beaucoup, mais 4 joueurs par équipe, au final, si tu répartis sur la quantité de participants, c'est pas si long.
Et pour le spectateur, tu trouves pas ça long ?
Oh, moi, ça m'amuse.
Alors,
j'aime bien. Moi, je pourrais pas tenir.
C'est reposant, c'est poétique.
Ouais.
Tu trouves ?
Ouais.
2 heures, c'est trop long pour moi, je trouve.
Après, par exemple, ils ont des arrêts de jeu. Chaque équipe a droit à 38 minutes de réflexion.
C'est très stratégique, en fait, dimanche. Tu dois analyser le jeu de l'autre pour savoir, pour pouvoir anticiper le placement de tes pierres et imaginer lesquelles de tes pierres sont en danger.
Donc, j'aime beaucoup ça.
C'est très très chouette.
C'est excellent. Et le ballet, qui est la chose la plus connue du curling, ce tchic 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 sur la glace, c'est lorsqu'un lanceur, et c'est souvent le skip qui est le rôle de Eve Murray, donc vous voyez, transition. en fait, quand vous en voyez, le ballet donne de la friction, donc va chauffer la glace, effectivement, va aussi enlever les débris, va essayer de polir pour que la trajectoire soit la plus proche possible du centre. Il faut savoir qu'effectivement, à une époque, faire des balles courbes, c'est-à-dire faire des lifts avec votre pierre, était de la triche. Et puis, oui, parce que là, traditionnellement, tu tires tout droit, tu vois. T'as un délire. Mais du coup, ça a été accepté parce que c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus technique. Pour les compétitions, le curling est régi par la Fédération mondiale de curling. Les nations les plus connues sont évidemment le Canada, l'Écosse, la Suisse, tu l'as dit, la Norvège, la Suède, qui se partagent les palmarès des championnats du monde qui ont lieu tous les ans. Les championnats du monde ont été créés en 1959 sous le nom de Coupe d'Écosse. Encore une fois.
Oui.
Les 3 éditions furent disputées uniquement entre l'Écosse, le Canada et 2 pays traditionnels du curling. En 79 apparaissent les championnats du monde de curling féminin, Cocorico. Les curieuses disputent annuellement un championnat du monde de curling féminin en un lieu et une date parfois identiques et parfois distincts de ceux du championnat du monde masculin. Évidemment, vous avez aussi les divers championnats, championnat de France, championnat du Canada, effectivement, qui ont lieu tous les ans. Et vous avez effectivement tous les 4 ans les JO d'hiver, les championnats d'Europe tous les 4 ans, depuis 2004 aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de compétitions qui sont possibles.
Comment se place la France sur la pratique du curling par rapport à d'autres pays où on va dire ils n'ont pas cette tradition de curling comme l'Écosse ?
Transition magnifique. Eh bien, on y arrive. Eh bien, sache que la Fédération française des sports de glace gère la Fédération française de curling. Et c'est la question habituelle. Combien y a-t-il en 2025 de licenciés ? Allez-y.
Non, mais Mélanie a l'air très pertinente ce soir. Je la laisse m'avancer son
mais là,
premier...
Mais là, j'ai mis le pifomètre. C'est pas bon du tout, ça. Ça se compte en centaines, ça se compte en milliers.
Moi, je pense que ça se... Non, toi d'abord.
Allez-y. Il nous faut une réponse.
Non, mais je prends plus le risque, là. Ça y est.
Il nous faut une réponse.
1200.
484 licenciés.
Okay. Je voulais dire des centaines à la base.
484 licenciés, dont 230 en compétition. 48% des licenciés, donc, pratiquent en compétition. Okay. Ça, c'est cool. Et il y a seulement 25 clubs. Alors, prix d'un kit tout prêt pour faire du curling, c'est 390 €, sachez-le. Mais c'est pour la vie. Et ça, c'est bien. Bon, parce que la patinoire, le lac gelé ne sont pas fournis. Les balais, c'est environ 45 €. Les combinaisons de chaussures ne sont pas fournies non plus. Pour du loisir, vous pouvez avoir des packs en club à 90 € la semaine complète et vous jouez en fait au curling. Donc pour un total minimum par an de 500 € ou 90 € la séance, c'est praticable, mais il vous faut absolument une patinoire, un lac gelé, une surface de glace.
Ouais. On est un petit peu comme dans le cadre du surf. En fait, ça se pratique pas, ça peut pas se pratiquer en fait tous les jours.
C'est
il y a des conditions. En fait.
C'est quand même circonstanciel.
Ouais.
C'est pour ça qu'il y a que à peu près 500 licenciés en France. Ouais. Donc tu veux savoir où on se place ? Voilà.
Ouais. Et puis pour le coup, c'est un budget parce que j'ai regardé le prix d'une pierre, juste une pierre. Donc déjà, tu les trouves très souvent d'occasion.
Oui, tout à fait.
Et pas vraiment neuve. Et t'es en moyenne à 500 € la pierre.
Ah ouais, ça
rigole pas. Hein. C'est du granit qui est très rare. Donc c'est compliqué d'en avoir.
Et maintenant, on va s'écouter de la musique créée et pensée pour devenir meilleur. Attention, il faut, depuis peu, deviner le film, mesdames et messieurs. Donc, une musique pour devenir meilleur. Quand on sort de prison, que votre frère vient vous chercher à sa sortie, que vous retournez dans un orphelinat où vous avez grandi pour recevoir une révélation de Dieu. Une œuvre de charité doit être organisée pour sauver l'orphelinat. Et ça tombe bien, vous avez un talent pour chanter et danser. Votre frère aussi, vous avez même un groupe, il n'y a plus qu'à les rassembler. Que pourrait-il mal se passer des nazis à votre poursuite, votre ex à moitié folle ou tout simplement toute la police du comté ? À vous de deviner le film, c'est le moment de mettre le premier morceau, Maestro.
We're so glad to see so many of you lovely people here tonight, and we would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel ballroom at this time. We do sincerely hope you all enjoy the show, and please remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there are still
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Bonjour à nouveau auditeurs et auditeurs, je suis toujours Cadlom du 92, nous toujours sur Allegre FM 93.1. Vous êtes bien dans l'émission Championne qui traite du sport féminin. On vient d'écouter un titre légendaire, cela date de novembre 1980, les Blues Brothers, extrait du film éponyme avec John Belushi, Dan Aykroyd, film qui descend directement de leur personnage dans le Saturday Night Live, très célèbre de 1977. Nous, on a eu le film avant de connaître ce magnifique film. Un casting grand étoile, James Brown, Ray Charles, Cab Calloway, la sublime Aretha Franklin, anecdote culture. La version de Sync du film est celle que vous écoutez tout le temps et pas l'original. Effectivement, celle qui est dansante et que tout le monde crie, c'est celle du film. Il y a aussi des caméos de Steven Spielberg, John Landis, Carrie Fisher, la princesse Leia, Chaka Khan et j'en passe. Qui est John Landis, vous allez me demander. Eh bien, il est très connu pour avoir fait un film extraordinaire qui est Un fauteuil pour deux avec Dan Aykroyd et Eddie Murphy, mais surtout le clip thriller de Michael Jackson. Tout est lié.
Oui.
Tout est lié, mesdames et messieurs. Tout. Mais reprenons. Aujourd'hui, mon nom est l'homme le plus frileux et le moins célèbre de la côte du 92. On va demander aux chanteuses de karaoké championnes du monde 2020, comment ça va ?
Ça va.
Attends, tu peux répéter ce que tu as dit ?
Championne
de karaoké.
De karaoké depuis 2020.
Pourquoi 2020 ?
Ouais, pourquoi 2020 ?
Le Covid.
C'est parce que... Ok, je vois. Je comprends. Ça va très bien. J'ai appris beaucoup de choses par rapport au curling. J'étais en train de regarder justement un petit extrait vidéo de curling et je t'assure que ça m'a donné envie d'en faire.
Mais ça a l'air génial.
Oui, tout à fait. Donc cette vidéo ?
Non, mais ça m'a donné envie d'en faire parce que c'est un sport qui n'est pas trop chargé en cardio.
Tout à fait.
Et qui a... En tout cas, j'ai cette impression-là où on a plus de la finesse dans les gestes et la façon de manipuler en fait ce balai qu'il n'y a en fait de cardio, ce qui me convient très bien parce que tu connais mon niveau de cardio.
Alors,
à quel point il est médiocre.
J'émettrai un bémol. Ça, c'est ce que tu penses et c'est l'impression que ça donne parce qu'effectivement, ça dure 2 heures, c'est long, etc. Mais je peux t'assurer qu'il s'entraîne assez énervé quand même.
Ok.
Pour le coup, il y a un vrai entraînement.
Il faut gainer. Quand tu vois les postures dans lesquelles il se trouve pour pouvoir pousser la pierre au départ, tu te retrouves accroupi sur une seule jambe, en équilibre, complètement gainé, à devoir lancer la pierre, mais assez délicatement pour pas qu'elle aille trop loin. C'est quand même costaud.
Il y a du jeu. Et donc, du coup, on va enchaîner avec notre portrait de la semaine, la légende Eve Mered. Alors déjà, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de cette athlète de haut niveau ?
Pas du tout.
Eh bien, ça tombe bien, on va la découvrir. Alors, Eve Mered, légende du curling, nom complet Eve Mered, date de naissance le 22 avril 1990 à Perth, en Écosse. Période d'activité, 2006 en junior, et en 2022, elle a pris sa retraite. Elle commence le curling très jeune, dès 9 ans. Son club de base, c'est le Duncass Curling Club à Pletchery, en Écosse. Alors évidemment, je n'ai pas pris l'accent écossais parce que je ne sais pas le faire.
C'est une joueuse difficile. Très difficile l'accent écossais.
Joueuse écossaise de curling et plus précisément la capitaine des équipes d'Écosse et de Grande-Bretagne de curling de 2010 à 2022. Son père, Gordon, a représenté la Grande-Bretagne aux Jeux Olympiques 92 en curling et a terminé 5e. Ses deux frères, Glenn et Thomas, jouent aussi au curling, ayant respectivement déjà joué pour l'Écosse et représenté le Royaume-Uni aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Innsbruck en 2012. Eve Mered, qui dispute les premiers Jeux Olympiques en tant que skip, donc capitaine de l'équipe, c'est un rôle très particulier, c'est la stratégie, c'est la personne qui va vraiment motiver l'équipe, c'est la capitaine, le numéro 10 au football, la tour de contrôle. Elle est donc capitaine de l'équipe britannique à l'âge de 19 ans à Vancouver en 2010.
La plus jeune.
Eh oui, elle devient en 2013 la plus jeune capitaine de championne du monde de curling avec l'Écosse. Elle devient entraîneuse de l'équipe mixte au championnat d'Europe, puis en 2014, elle retrouve son équipe habituelle pour représenter la Grande-Bretagne aux Jeux Olympiques de Sochi où elle remporte la médaille de bronze. Porte-drapeau de la Grande-Bretagne en compagnie de Dave Ritmitt lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Pékin en 2022, à sa 4e participation à l'édition hivernale, elle mène 2 semaines plus tard son équipe à la médaille d'or le 20 février en finale face au Japon et prendra le titre de championne d'Écosse, championne du monde, championne olympique et prendra sa retraite. Si ça, c'est pas finir.
En beauté.
En beauté, au-delà de l'affiche, vraiment. 2 mois plus tard, évidemment, elle remporte le titre mondial même en double mixte. Voilà, année extraordinaire, championne olympique, championne d'Europe en titre. Au mois d'août 2022, sur les réseaux, elle prend la décision de prendre sa retraite sportive. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire de ce joli parcours ?
Spectaculaire, je trouve, pour son âge.
Exemplaire. Inspirant.
Ouais, inspirant, complexe quand même.
Ouais.
Ah ouais.
On va se mentir.
On te demande pas de faire la même chose.
non, mais complexe. Non, mais c'est encore, on est encore sur un profil de grande bosseuse. Ouais. En tout cas, c'est l'impression qu'elle donne. Et est-ce qu'elle dit, je crois, d'elle-même. Il semblerait qu'elle a un niveau d'exigence, ce qui a fait d'elle d'ailleurs une capitaine, hein, parce que c'est pas n'importe qui peut être capitaine. Non, assez spectaculaire, je trouve, et assez curieux qu'à un si jeune âge, à 19 ans, on ait cette titularité-là au sein de son équipe.
Enfin, non, c'est une prodige de ce sport, clairement. Ouais. Et puis elle a l'héritage derrière, l'Écosse, son père, ses frères.
Exact.
Ce qui met quand même une certaine pression mentale, d'ailleurs, on va en parler.
Perpétuer justement cette exemplarité qu'elle a dû...
Et surtout, elle allait plus loin que son papa, elle allait plus loin que ses frères. Elle a mis son... elle est 7 ou 8 fois championne d'Écosse, c'est-à-dire tous les ans elle gagnait avec son équipe. Et ce qui est fort, c'est aussi c'est une performance qui est quand même dans un collectif. Et ça reste un sport collectif et curling. On n'est pas sûr, comme on a l'habitude de faire au football ou à d'autres, de mettre la pression sur un seul joueur et c'est le joueur qui fait basculer le match. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui est très fort mais qui mène son équipe vers le haut, ce qui est plutôt pas mal. Et tu parlais de l'entraînement, donc parlons un peu de l'entraînement. Alors, elle affirme que le balayage, le sweep, pendant un match, peut être très intense, comme une séance d'intervalle de 3 heures, et que ça pèse sur le corps. Elle reconnaît que pour tout sport de haut niveau, la préparation physique et la condition sont déterminantes. Mmh. Ce que beaucoup ignorent quand ils font un match de curling à la télé, dans le plaid, le samedi après-midi à 15h.
Comme moi, tout à l'heure, quand j'ai regardé cette petite vidéo.
Non, mais c'est tout à fait normal, hein, parce que c'est l'impression que ça donne.
Ouais.
Et évidemment, depuis sa retraite de la compétition via son projet Murray Curling, elle propose des séances de performance coaching destinées à des joueurs déjà initiés, ce qui suggère qu'elle transmet son approche professionnelle et structurée, technique, tactique, conditions physiques. Bref, elle rigole pas. Et en fait, c'est des heures à la DM de cardio, tapis, vélo. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. Il faut savoir que en septembre 2025, c'est il n'y a pas si longtemps, elle sort une autobiographie appelée The Ice Queen sur sa dimension personnelle, son histoire. Dans ce livre, elle retrace son parcours depuis ses débuts, les sacrifices de toutes les pressions et la quête de l'excellence, ce qui en fait plus qu'un simple palmarès, un témoignage humain de ce qu'est d'être au haut niveau. Cet ouvrage ajoute une dimension importante, montrer que derrière la championne, il y a une personne, ses peurs, ses choix, ses combats. Il faut dire clairement qu'elle l'a dit elle-même, à un moment donné, elle a fait une dépression. Voilà.
Ah ouais.
Elle a fait une dépression juste avant les Jeux de 2022, donc l'année de sa retraite, où elle gagne tout. Elle a dit elle-même, je suis en dépression. Elle n'avait pas avec son coach. Elle a dit, je ne sais pas ce que je fais là. Je n'ai pas envie d'aller aux entraînements.
Oui, elle a eu
pas
une
bien.
Crise existentielle, on va dire. Mmh. C'est surtout ça. Okay. Bah, moi, je pensais qu'elle avait fait une dépression en raison peut-être de la pression autour, le fait que l'Écosse, on va dire, compte sur elle.
C'est ça, parce c'est ta dernière année.
Exactement. Mais oui, c'est une petite crise existentielle. C'était à quel âge?
22, elle est dans 90, 32 ans.
Ah oui, la crise existentielle. Ok, peut-être qu'elle l'a pas fait à 20 ans, mais ça a dû se répercuter un peu plus tard.
Bah, après, en même temps, comme tu as dit, hein, t'es au haut niveau, tu gagnes tous les ans dans ton pays, t'es capitaine, t'as fait 3e sur tes premiers jeux qui datent, t'es en fin de carrière, c'est ta dernière chance d'avoir une médaille d'or, et en fait, tu vas la chercher. Et elle, je pense que c'est toute cette pression, et c'est aussi pour ça qu'elle... Elle bosse beaucoup pour les coachs mentaux, la santé mentale dans le sport. Elle est vraiment sur cet aspect-là qui n'était pas forcément beaucoup pris en charge avant, puisqu'effectivement, on peut vite se retrouver en galère, sachant que le curling, ce n'est pas le football, le basketball ou le rugby. L'argent ne coule pas à flot.
Il y a moins de sponsors, probablement. Ouais.
Voilà.
Peut-être qu'il y en a en Écosse, puisque c'est assez, c'est assez populaire.
Je pense que tu peux être professionnel là-bas, tu vois.
Absolument, ouais.
Mais déjà, ça doit se compter sur la doigt d'une main, les gens qui peuvent en vivre. Et derrière, c'est toute cette pression de sponsoring, cette lumière qu'on a sur toi, cette attente. Et ça, c'est quelque chose qui est assez, assez étouffant. D'ailleurs, à titre personnel, puisque nous faisons la passerelle, est-ce que ça vous est déjà arrivé en tant que femme de sentir qu'il y a plus de pression parce que vous êtes une fille? Professionnel, personnel, peu importe. Ou est-ce que vous avez déjà ressenti ça, le fait que c'est, là vous sentez que c'est oppressant parce que vous êtes une fille, pas pour une autre raison d'ailleurs.
Peut-être qu'au niveau des études.
Ouais, vas-y.
On pardonne moins peut-être les parcours, les sorties de route académiques. En tout cas moi, c'est la pression que j'ai pu ressentir. On pardonnait moins les sorties de route académiques ou
pour les filles.
Les changements d'orientation soudains. Tu sais, ces fameuses crises existentielles quand tu arrives à la fac et que tu as envie d'annoncer aux parents que finalement ton choix n'était pas si bon, que peut-être tu as changé d'avis, au lieu de faire droit, tu vas aller en médecine, rien à voir. Et moi, je pense qu'en tout cas, j'ai ressenti cette pression-là davantage que mon frère et ma sœur. C'est celle qui a subi le plus de pression, oui, par rapport à l'excellence académique.
Ouais.
Faut majorer. Mon frère ne l'a pas forcément vécu. Hein.
Oui, voilà.
Voilà, c'est juste pour
dire. Il est passé d'un parcours à un parcours, mais ça va.
Voilà. Mais d'ailleurs, elle a majoré. Moi, j'ai pas majoré, mais j'ai pas mal réussi.
Alors, que veut dire majoré pour ceux qui ne sauraient pas?
Majeur de promo. Voilà. Majeur de promotion. Donc,
oui,
de promotion.
C'est au level.
Non, mais en tout cas, moi, j'ai pu sentir cette pression.
Ok. Mélanie ?
Et elle aussi.
Bah, moi, je ne connaissais pas le mot majoré parce que je n'étais pas major de promo. Donc...
Non, mais moi non plus.
Donc, bon, ouais.
Moi non plus. Je parlais de ma sœur, c'est pas moi. Moi, je n'ai jamais été major de promo.
Tu as reçu un peu de pression comme ça, toi aussi ?
À l'école, enfin, dans tout ce qui est parcours éducatif, c'est vrai qu'en entendant Camélia en parler, je me rends compte que peut-être oui. Moi j'ai eu mon parcours qui a dévié à un moment, je me lançais en licence de droit et finalement je me suis rendu compte que c'était pas pour moi et je me suis complètement réorientée en ne sachant pas vers où j'allais.
Ouais.
Mais elle y allait quand même. Hein.
Mais j'y allais.
C'est ce qu'on appelle avoir confiance
en
l'inconnu.
Vers le soleil couchant.
Avoir confiance l'horizon. En l'inconnu, ouais.
Et pour le coup, c'est vrai que peut-être parce que je suis une fille, j'ai peut-être eu plus ce jugement sur. Est-ce que t'es sûre ?
Ouais.
Est-ce que c'est pas une prise de risque ? Et le risque, chez les filles, c'est
on nous fait douter, en fait, sur le fait d'en prendre
exactement.
Ou pas.
Est-ce que, du coup, j'ai une question, parce que moi, je le sais, donc je vais le dire. En plus, vous avez un exemple masculin, puisque toutes les deux, vous avez un frère.
Ouais.
Donc, est-ce que vous avez ressenti qu'effectivement, il y avait une différence ?
Oui, plus de laxisme.
Sur ce sujet-là,
plus de laxisme.
Le laxisme, il pouvait se balader 15 kilos dans le salon.
En fait, je veux dire, les parents étaient plus dans l'acceptation, en fait, des mauvaises décisions. Où parfois on le laissait prendre de mauvaises décisions, alors que moi on était un peu plus dans le contrôle de ce que je voulais éventuellement faire.
Ah, c'est rigolo parce que moi du coup c'est pas au niveau de la famille, parce que pour le coup c'est pas mes parents qui ont porté un jugement sur le parcours académique, ils nous ont soutenus de la même façon.
Ça, c'est
plus au niveau amical.
Ah,
c'est ça
qui
est rigolo aussi. On est arrivé à la fac avec un même groupe d'amis dans lequel il y avait des filles et des garçons. On s'est tous réorientés de la même façon et pourtant on n'a pas eu le même jugement dans ce cercle amical.
Oui, alors qu'en plus vous étiez jeune, ce qui est encore
exactement.
Plus fou.
Sur les amis garçons, c'était « Ah bah c'est chouette, t'as une opportunité, fonce !» Et nous, c'était « Mais t'es sûre de toi
ouais, ?» Tu devrais
le
faire
doute.
Attention.
Ouais,
c'est ça. En fait, c'est cette petite graine qu'on vient ensemencer, tu vois, et c'est horrible parce qu'elle reste.
C'est ça.
Et t'es là toute seule, en fait, à essayer de la défaire, à te sortir de ce doute-là. Et à gagner confiance, mais c'est assez difficile. Parce que la graine est déjà là. Hein.
C'est hyper intéressant. Maintenant, imaginez si vous aviez eu une carrière de sportif professionnel où le pays entier attendait de vous et que vos frères, sœurs, oncles jouaient au curling. Je pense que là, maintenant, vous comprenez le truc décuplé. Quoi.
Oui, absolument.
Moi, en tant que garçon, j'ai d'autres pressions sur d'autres sujets, mais pas celui-là.
Non, mais il y en a d'autres. Mais c'est celui qui m'a... Qui
non, clairement, c'est important parce que tu l'as dit, c'est vrai que pour les études, on n'attend pas la même chose alors que ça n'a aucun sens. Bien maintenant, nous allons écouter de la musique et nous allons mettre le second morceau dans un instant. Alors, ce morceau est dédicacé aux personnes qui veulent se moquer de leurs ex nuls en chantant et en agitant la main, bien sûr. Alors, dédicace à toutes les personnes ayant eu un ou une ex épouvantable dans leur vie. Au refrain, n'hésitez pas à agiter la main comme ça, d'un ton méprisant et hautain. Musique maestro, s'il vous plaît.
The dance, the tempo, and the music you did.
Et alors, bonjour à nouveau auditrices, auditeurs, nous sommes toujours sur 93.1, je suis Cad, l'homme du 92, et bien dans l'émission championne, et on a envie de dire on vient d'écouter ce break-up song de The Greg Kim Band. Oui, je suis très fort pour faire des onomatopées. Pour m'accompagner, j'ai toujours Camilla Mélanie, jamais de sobriquet pour la troisième partie. Et bien sûr, la régie en place, nous avons Renaud, bien sûr, ici. J'ai bon. Yes, il fait son signe de Joule. Et bien sûr, Diego Armando Maradona, bien sûr, avec nous. Voilà. Est-ce que ça va? Tout va bien?
Excellent, j'ai découvert des morceaux grâce à toi.
Alors moi j'ai découvert un morceau de gâteau, je vous explique ce qui s'est passé. Faut expliquer aux gens. En fait, Camilla est partie à la boulangerie acheter un gâteau sur la tête de ma mère. Son gâteau c'est un barrage, c'est-à-dire que si vous voulez arrêter les chutes du Niagara, mettez le gâteau, c'est fini. Vous prenez un bout du gâteau, vous faites pas une crise d'hypoglycémie, vous vous transformez en sucre. C'est-à-dire qu'un sucre avec deux bras. Le truc est tellement balèze, mais tellement balèze, mais que, en fait, attention, il faut savoir que cette boulangerie, la boulangerie concourt pour le prix Nobel de la paix qui a un dixième de ça. D'ailleurs, ça s'appelle pas un 4 quarts, ça s'appelle un 6 quarts. Le 6 quarts, un dixième peut nourrir toute la faim dans le monde. Le truc est... Montre-le que... Montre-le.
En fait, c'est
exceptionnel.
J'ai montré à Mélanie.
Montre-le en direct à Mélanie. Non, mais montre-le à la régie. La régie doit le voir.
Mais c'est trop loin.
C'est une chose énorme.
C'est trop loin.
C'est trop loin.
Le truc, genre, bon, ça coûte quand même pas très cher, mais ils sont assez généreux. Mais faut pas leur dire, en fait, qu'ils le sont.
C'est un dîner. Alors, reprenons, bien sûr. Pour m'accompagner toujours, Camilla Mélanie, merci d'être venue. Et maintenant, nous allons parler de manière libre de la place du sport dans la vie des femmes. Vous êtes des femmes, ça tombe bien.
Oui.
Et pour ceci, nous allons faire un exercice particulier. Je vais me transformer en Thierry Ardisson. J'avais envie de lui rendre hommage, bien sûr. Vous serez les jolies filles invitées pour une interview piégée, bien sûr. Je ferai semblant d'avoir des fiches en main, un sourire carnassier. J'hocherai la tête en faisant genre ça m'intéresse alors que je veux juste faire des vannes. Attention, jingle numéro 1, s'il vous plaît la régie. C'est le moment d'envoyer le jingle numéro 1. S'il vous plaît, la régie.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
On va vous faire l'interview nulle lumière, s'il vous plaît. On ne bouge pas pendant le jingle.
Applaudissements pour la régie, bien sûr. Ah, très important. Alors, vous avez entendu, c'est l'interview nulle. Vous êtes prête? Attention, c'est parti.
Ah non, moi je laisse Mélanie répondre en premier.
Vous pouvez répondre comme vous voulez.
Allons-y.
Alors, première question. Alors, vous faites du sport parce que vous aimez ça ou parce que vous avez lu que ça tonifie le fessier dans un magazine pour ados?
Alors, pas parce que ça tonifie, mais parce que je me rends compte que si je veux pouvoir avoir mon bus en courant sans devoir respirer fortement en dérangeant tous les passagers du bus pendant 20 minutes pour pouvoir récupérer un petit peu de souffle, je suis obligée de faire un minimum de sport. Ce n'est pas normal d'avoir le cardio d'une personne de 70 ans à 26 ans.
Très bonne réponse. Deuxième question. Quand vous dites que vous faites du vélo, on parle du Tour de France ou du vélo pour aller chercher un bubble tea?
Camilla, tu veux répondre à cette question?
Oui. Bah, ni l'un ni l'autre, parce que j'aime pas trop les bubble tea. Mais comme je suis ambitieuse, je dirais le Tour de France.
Oh wow.
Parce que en fait, je rêve beaucoup. Donc je peux facilement avoir. Mais je peux facilement avoir ce genre de projection. Donc réponse numéro 1.
Très bien. Attention, question suivante. Vous pensez qu'un jour, un film de sport avec une femme héroïne sortira sans que ce soit un biopic inspiré d'une histoire vraie, ou c'est encore de la science-fiction?
De la science-fiction. Non, pour le moment. Après, t'as dit peut-être qu'un jour. Après, il y a des films teenager où c'est des jeunes filles qui se lancent dans du breakdance. Et en général, le problème, c'est que c'est des romances, en fait. C'est pas vraiment une fille dans le sport, c'est une fille dans le sport, mais qui tombe amoureuse d'un garçon qui lui apprend à danser.
Un drama.
C'est pas des films coréens, ça?
Alors, t'en as très certainement des coréens, t'en as beaucoup d'américains.
Elle pense à Street Dancers.
Ah ouais, Street Dancers.
Avec, comment il s'appelle? Shining Tatum,
exactement. Ouais.
Danser sous la pluie.
C'était exactement ça.
C'était ça.
J'avais ça en tête.
Si tu me dis danser sous la pluie, moi ça me fait penser à Usher, mais ok.
Dernière question de cette première interview avant d'envoyer le jingle 2. Selon vous, pourquoi certains pensent encore que les femmes ne peuvent pas faire de sport de combat alors qu'ils ont déjà essayé de discuter avec une femme en colère? Je vous laisse répondre.
Mais pourquoi est-ce que toi tu répondrais pas justement? Parce que j'ai l'impression que t'as la réponse. Vu que t'as préparé la question.
Oui, j'ai préparé la question en mode Thierry Ardisson, je vous jure. Je me suis fait violence, parce qu'il a beaucoup plus de talent que moi.
Mais je propose que tu répondes.
Alors, moi je pense tout simplement qu'il y a un problème d'ego masculin sur le fait que si une femme fait du sport de combat, eh ben en fait le type va croire qu'il ne sert à rien. Voilà.
En fait,
il y a le côté protecteur qu'on leur a mis dans le crâne, et du coup, il faut que la fille elle soit protégée, il faut qu'elle soit fragile. Et si du coup, elle peut éclater un mec de 150 kilos en kickboxing en 3 secondes devant lui, il y a des hommes,
oui,
ce qui n'est pas mon cas, mais il y a des hommes qui ont l'ego fragile et ils vont se dire gne, tu n'es pas pour elle.
Voilà. Oui, une sorte de normativité féminine.
C'est ça, une sorte, tu sais, de où est ma place. En fait, ils ne sont tellement pas ouverts qu'ils n'imaginent pas leur place ailleurs.
Ok. Donc ça donne une impression qu'ils se sentent inutiles.
Exactement, tout à fait.
Donc c'est de l'ego.
Oui, et c'est aussi, tu vois, ils se disent un truc fou. Je pense certains, et je parle aux mascu-muscu qui nous écoutent, c'est sûr. Bah en fait, quand je vais vouloir calmer ma meuf, il n'y a pas moyen, elle va me démonter. Elle va me fracasse. Quand elle va me dire en fait, c'est un préjugé très bête, mais c'est quand elle va dire fais la vaisselle, tu vas dire faut que tu mettes la vaisselle, sinon elle va me démonter. Tu vois, ce qui est... Alors que la situation inverse ne les dérange pas. Tu vois,
ouais.
Le règne par la peur. Bref, j'ai répondu à cette question. Jingle numéro 2, s'il vous plaît.
On va faire une interview, fait ou à faire.
Avez-vous déjà été payé moins qu'un collègue masculin pour la même sueur? Spoiler, si la réponse est fait, vous n'êtes pas la seule.
Est-ce que j'ai déjà été... moins bien payé.
Ouais. Est-ce que vous êtes rendu compte à un moment donné qu'effectivement, pour à peu près même tâche, à peu près poste équivalent, vous étiez moins payé
oui.
que...
Oui.
Oui.
Surtout en début de carrière.
Ouais.
Parce que moi, j'ai pas d'enfant.
Bah, pour le coup, moi, je... Enfin,
vas-y.
Ah ouais,
dans
la grille de salaire de tout le monde.
Alors, j'ai pas la grille de salaire de tout le monde, mais en fait, dans mon métier, dans mon équipe et dans mon entreprise, on est très, très féminin. Il y a beaucoup de femmes et très, très peu d'hommes. Et je pense que du coup, sur le seul collègue masculin que j'avais en début de carrière, on devait être salaire équivalent à peu près en étant sorti du même master et on avait 2-3 ans d'écart.
Ça, c'est bien, ça.
Donc, ouais.
Mais toi, par contre, pas du tout.
Non,
dans ta branche...
Non, pas du tout. Après, voilà, ça se négocie. Il faut négocier dès le départ.
C'est sûr.
Mais c'est difficile de négocier quand tu n'as pas la grille de salaire, quand tu n'as pas connaissance en fait de grille de salaire et que t'es en début de carrière, tu sais même pas ce que tu veux demander en début de carrière.
Et qu'évidemment, t'informes pas.
Moi, ignorant, personne t'informe. Et pas beaucoup d'infos sur Google. Les infos sur Google sont fausses la plupart du temps. Mais si, c'est possible. Moi, j'avais un meilleur parcours académique. J'étais davantage diplômée.
Ouais.
Et je parlais anglais couramment. Et j'avais moins.
Moi, je trouve ça aberrant personnellement. Ça me répile. Mais je reprends mon personnage. Du coup, avez-vous déjà entendu quelqu'un dire qu'une femme qui transpire, c'est moins glamour? Traduction, l'hygiène ou la performance?
Et puis les poils chez une femme, pourquoi faire? Autant qu'elle les enlève. Tu sais, tous les jours. Hein.
Alors là, j'ai fait, ok. De ton côté.
Franchement, je vais laisser cette réponse. C'est la meilleure.
Avez-vous déjà eu plus de commentaires sur votre tenue que sur votre performance professionnelle? Apparemment, le textile, c'est l'essentiel.
J'ai davantage de compliments. Pour tout ce qui est en rapport, on va dire, tout ce qui se rapporte à l'esthétisme, que ce soit la tenue ou autre, que des compliments sur mon travail, que je sais très compétent par ailleurs.
D'accord.
Parce que oui, je me teste et je me compare assez souvent. Et généralement, je corrige pour m'améliorer. Non, mais oui.
Mais t'as raison, c'est la perf.
C'est beaucoup de perfectionnisme, mais oui, ça c'est vrai. Mais moi, je trouve ça assez flatteur hein, de recevoir des compliments sur sa façon de se vêtir ou sur son visage ou même
son
ses attitudes, sa posture. C'est assez flatteur, mais ça l'est tout autant d'en avoir au travail.
Voilà.
Ça l'est tout autant. Qualité en fait, de son travail.
Voilà, t'as tout dit. En fait, le truc, c'est que tu ne dois pas supplanter l'autre. C'est-à-dire, complimenter sur le style, c'est cool, mais il ne faut pas oublier que.
Après,
tu ne complimentes que sur le style quelqu'un et jamais sur son boulot.
Mais après, est-ce que ce n'est pas plutôt un problème de management, ça? Parce que les managers ne font pas souvent de compliments. Enfin, moi, en tout cas, je, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, je ne le remarque pas. J'incite.
Oui, à l'encouragement.
Je les encourage, en fait, à en faire. Mais il n'y en a pas souvent, c'est vrai. Plus des critiques qu'il n'y a de
ouais,
de
que d'axes d'amélioration.
Ouais.
Dernière question avant d'envoyer le jingle 3, bien sûr. Avez-vous déjà été jugée trop discrète, trop bavarde, pas assez féminine, trop ambitieuse, sans dans le regard de quelqu'un qui a travaillé avec vous? Diagnostic gratuit, la compétence n'est jamais au rendez-vous, apparemment.
Ouais. Total.
Oui.
Bah oui.
Moi, on m'a jugée trop jeune.
Ah ouais, mais pourquoi?
Bah, très souvent.
Ça, c'est ton visage.
Est-ce que c'est parce que femme ou homme, je ne sais pas, mais moi, les remarques que j'ai eues et qui m'ont déjà un peu remise à ma place, Ouais. C'était sur mon âge et sur le fait que oh, t'es trop jeune, du coup t'as pas les connaissances. Alors que très souvent, je les avais.
mais ça c'est une bataille d'ego hein, comme d'habitude.
Ouais, ouais c'est toujours.
Il oui, y a des gens qui ont un problème avec le jeunisme, entre guillemets, ils ont peur d'être remplacés, blablabla. Ouais, ouais. Alors bref, on attend encore le jour où les femmes feront du sport sans avoir à s'excuser ni s'expliquer, et dans le travail aussi. Jiggle numéro 3, s'il vous plaît.
Vous répondez l'inverse de la vérité, vous mentez, interview mensonge.
Alors c'est vrai que les femmes font du sport uniquement pour rester jolies sur les photos, jamais pour battre des records?
Oui. Non, du tout.
Elle commence à jouer le jeu.
Non, absolument pas. Oui. Non, non, absolument pas. Au contraire, enfin, il y a eu une tendance. Avant, on pouvait considérer que les femmes faisaient un sport qui devait impérativement être gracieux parce qu'on peut-être on les associait à des sports qui devaient avoir un certain esthétisme, on va dire, féminin. Mais aujourd'hui, moi, au contraire, je trouve qu'elles ont une approche qui est un peu plus holistique où elles essaient de trouver un sport qui va à la fois compléter leur bien-être, on va dire, physique, santé.
Et mental aussi.
Mental. Que ça soit quelque chose d'assez amusant aussi et fun. Parfois même beau, comme par exemple, il y a des sports qui esthétiquement sont très beaux à voir. Je ne sais pas, le pole dance, ça en fait partie.
Ouais,
donc vraiment, en tout cas, moi, de mon observation, je trouve qu'elles ont une approche plus holistique aujourd'hui qu'auparavant.
Complètement d'accord avec toi. Mais je te rappelle qu'il fallait dire un mensonge. Du coup...
Ah oui, il fallait dire un mensonge.
Mais tu peux développer après, évidemment.
Elles font du sport pour avoir un gros boutil.
Followers.
Hein. Pour avoir des followers sur Instagram.
Non, je rigole. Après, tu peux faire la réponse en mensonge. Après, tu développes la vérité, évidemment. Avouez que personne ne vous a déjà dit « Ah bon, une femme peut faire ce sport-là »
Non.
Jamais.
Jamais. Jamais.
Et donc la vérité maintenant? Parce que je sens la vague de tête.
Le lancer de poids, c'est que pour les hommes. C'est sûr.
Le MMA aussi.
Le MMA, c'est que pour les hommes.
Les
arts rugby.
Le rugby.
Ah ouais, bah oui.
Le rugby, c'est un sport de la biscotte.
Ouais,
hein.
Ouais.
On connaît.
Le foot.
Le foot aussi,
évidemment. Ouais.
Vous confirmez que les femmes n'ont jamais, mais alors jamais, été sexualisées dans le sport?
Never ever.
Pourquoi faire? Le sport, c'est du sport. Hein. On est là pour ça.
Vraiment la réponse de
beauf. Quoi, la réponse de beauf de ouf. Attends, j'en ai
never
une.
Never ever.
Ah oui. En toute honnêteté, on n'a jamais demandé à une sportive comment elle concilie carrière et vie privée.
Mais non. Jamais.
Non, jamais.
C'est absolument inutile.
Voilà. Non. Par rapport à un homme,
elle n'a pas bien... de vie privée.
Mais non, mais et puis elle a un
sa vie privée est dans le sport. Bah oui, elle a un mari surtout. Ouais.
C'est vrai que la place du mari, c'est à la cuisine. on est bien au courant. Et enfin, dernière question sur cette catégorie. Il n'existe aucun sport où on a dû créer une catégorie féminine parce que ça faisait désordre de voir performer mieux que les hommes.
Ça faisait... Est-ce que tu peux arrêter ça faisait quoi?
Ça faisait désordre de voir les filles performer mieux que les hommes. Et du coup, on leur a fait une catégorie à elles.
Bah, tu sais quoi? Tu vas répondre à celle-là.
Ah, c'est totalement faux. En patinage artistique, on ne l'a pas du tout vu. Où les filles se sont incrustées au championnat du monde de patinage artistique parce que le règlement ne les interdisait pas de venir, alors qu'elles n'avaient pas le droit de faire de patinage, qu'elles ont fait médaille d'argent. Et les mecs ont tellement paniqué que l'année suivante, ils ont créé la catégorie féminine.
Tu sais que si quelqu'un arrive en pleine émission à ce moment-là,
oui,
et qu'il t'écoute parler, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il raconte? Parce qu'il n'a pas compris le concept au début.
Puis il fait un AVC en direct. Alors merci d'avoir menti avec autant de talent. La vérité, elle fait souvent beaucoup plus mal, mais au moins on avance. Et allez, dernier jingle, s'il vous plaît.
Vous ne m'en voudrez pas de vous faire une interview.
Il va nous porter le...
Catastrophe. Ah,
allez, on ne bouge pas pendant le jingle.
Évidemment, deux questions catastrophiques très rapides qu'on aurait préféré ne jamais entendre. Quand vous partez au sport, vous emmenez combien de tenues? Parce que c'est important d'avoir une tenue de sortie,
tenue,
une tenue
en fait,
de sport, une tenue de machin, une tenue de truc.
Bah non, je suis déjà en tenue. Enfin, je prends pas de tenue, je prends ma serviette, ma bouteille,
ouais,
et c'est
ouais,
tout. Je suis déjà en tenue en fait. Je sors de, enfin, si je suis chez moi, je sors de chez moi en tenue de sport.
Oui. Oui, mais il y a des gens qui croient encore que les filles partent avec un sac de voyage au sport.
Non.
Véridique. Je l'ai plus sur des
forums. Qui sont ces gens?
Des masculins, j'imagine.
C'est absurde parce que tu les vois déjà dans la rue, en fait. Elles sont déjà habillées pour aller à la salle de sport.
Quand vous gagnez quelque chose, vous pleurez parce que vous êtes émotive ou parce que vous êtes une femme?
Oh, mais elle est violente, celle-là.
Elle est tirardissante, elle est catastrophique.
Ah, c'est une vraie question.
Non, je l'ai inventé.
Oh d'accord, j'ai eu peur. Je me suis dit waouh.
Mais il sortait des trucs comme ça. Je me suis documenté avant de trouver des questions quand même. Je me suis documenté. Alors, quand vous gagnez, vous pleurez parce que vous êtes émotive ou parce que vous êtes une femme?
Je crois bien que c'est parce que les émotions, mais pas forcément être une femme. Même un homme a le droit de pleurer s'il est émotif, qu'il est ému, qu'il est content, qu'il est triste. Tout le monde a le droit de pleurer.
En fait, je pense qu'il pleure à l'intérieur, mais on va dire que les femmes, c'est perceptible parce qu'on est autorisés, nous, à pleurer. C'est pas très grave. Ouais. Voilà, aux yeux du public, c'est pas très grave si on pleure. Mais l'homme pleure à l'intérieur.
Alors que tous les hommes le savent, ils ont tous pleuré devant E.T. Je le sais, je l'ai fait. Alors, dernière question catastrophique.
Catastrophique.
Oui, catastrophique. Quand on gagne une médaille, est-ce qu'on peut quand même se maquiller avant de monter sur le podium?
Je laisse Camélia répondre, je suis jamais montée sur le podium.
Est-ce qu'on peut quand même se maquiller? À quoi bon? On va pleurer de toute façon.
Oh, très bonne réponse. Applaudissements. Bravo, bravo. Et bien sûr, nous arrivons à la fin de cette émission quasiment. Bref, est-ce que les femmes doivent encore prouver qu'elles savent faire du sport ou est-ce qu'on peut les laisser, tout simplement, les laisser faire du sport, leur foutre la paix et les regarder gagner? Alors, remerciements évidemment à la chaîne AliRFM 93.1 de nous laisser cette émission. Le compte H-Champion... Voilà, c'était l'AVC en direct. Le compte de H-Champion _ l'émission sur Instagram. Vous pourrez retrouver la Fédération Française de Curling sur @FF Sport de Glace. La Fédération Internationale de Curling @WorldCurling. Eve Meuret sur Instagram, qui maintenant est devenu coach, etc., @EverMeuret. Bien sûr, sur un compte très sympa, @LaPeta, parce qu'on aime les animaux. La page Facebook Quiz de Foot, parce que c'est un ami qui vous veut du bien, c'est cool. Et aussi, une jeune femme qui fait du sport et qui est militante et qui parle beaucoup dans les interviews en ce moment, je vous conseille de la suivre, c'est @Emma.Oudiou, qu'on voit beaucoup dans les podcasts actuellement. Pouce levé. On arrive donc à la fin de cette émission. C'est le mot de la fin. Je vous laisse. Vous avez 2 minutes. Faites-vous plaisir.
Bah, est-ce que ça t'a donné envie d'en faire du curling? Ou à minima, en fait, de découvrir, de faire un essai.
Ouais, une initiation. Ouais, une initiation. Moi, ça me plairait beaucoup. Parce que déjà, j'aime regarder ce sport.
C'est vrai qu'il est agréable à regarder.
Il est super agréable. C'est un sport mental, en plus d'être un sport physique. Donc t'as...
Il est complet.
Ouais, il est complètement complet. T'as le côté sport d'équipe, donc t'as de la stratégie, t'as du temps d'écoute. Il est super, ce sport.
Il y a de la précision aussi. En tout cas, il te donne l'impression qu'il faut de la précision.
Il faut beaucoup de précision. Et il y a un côté,
comme
t'as
dit... Il ne faut pas être maladroit ou alors ça t'apprend à ne plus être maladroit.
C'est ça. Et la stratégie, quand ils ont 38 minutes par match pour discuter stratégie, c'est vraiment très très précis, en particulier. Sachant qu'en plus que tu as défini ta stratégie, il faut quand même que tu envoies la pierre au bon endroit, que comme il faut, tu vois, il ne faut pas que tu rates ton coup. Il y a tout un...
Mais tu sais... C'est pas du billard par hasard?
Il y a un peu de ça, si tu veux enlever les autres pierres et essayer de te placer, il y a vraiment le côté effectivement géométrique à prendre
si
en compte.
Si tu prends un professionnel de billard et que tu prends un professionnel de curling et qu'ils t'entendent ensemble dire ça, je pense qu'ils se checkent et qu'ils te jugent.
Bah, je vais pas le faire. Je retourne au tir. C'était très bien
là,
pour
ça
moi.
Ça tombe bien, c'est le mot de la fin. Le mot de la fin pour toi, ma chère Camélia.
Allez faire du tir.
Très bien.
Au moins, vous êtes solitaire, vous êtes en solitaire. ça coûte un... Non, mais le sport de tir. Le sport de tir.
Tir à l'arc, tir sportif.
Voilà, tir sportif, évidemment. Pas en campagne, clandestinement.
Voilà, la saison de la chasse, on connaît.
Tester le curling et vive l'Écosse.
Vive l'Écosse, bien sûr. Ouais. Je suis assez d'accord là-dessus. Mesdames et messieurs, merci d'avoir assisté à cette émission. J'espère que vous êtes amusés. Moi, en tout cas, c'était cool ça. Vous avez passé un bon moment.
C'était très excellent. Chouette.
Voilà. Merci à la régie Renault In The Place, merci. Bien sûr. Diego Armando Maradona. On est là. On embrasse Jules qui nous écoute comme chaque semaine. Et c'est le moment d'envoyer le générique. Bon week-end à tous.
Vous écoutez AliGreFM 93.1.